Vous êtes à quel étage ?
Arrêt à tous les étages, une émission présentée par TK Elevator sur Radio Imo.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo. Je vous propose aujourd'hui de prendre l'ascenseur pour faire un arrêt à tous les étages, pour découvrir des projets innovants et rencontrer ceux qui les réalisent et les font grandir. Dans le cadre de ce premier rendez-vous, nous allons aborder et évoquer l'importance de la réhabilitation du parc immobilier post-Covid et les différentes mutations et transformations auxquelles les professionnels que nous allons questionner aujourd'hui devront faire face aujourd'hui et à l'avenir. Et pour évoquer les grandes lignes de cette grande thématique, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Emmanuel Paris, président de TK Elevator France. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Kenza.
Merci d'être avec nous. Vous avez voulu aussi avoir à vos côtés Yannick Hénouche. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Vous êtes président directeur général de Exim, réseau national de cabinets spécialisés dans les diagnostics immobiliers, le contrôle et la mesure des bâtiments. On en reparlera dans quelques instants. Et vous avez également voulu avoir à vos côtés Emmanuel Claire. Bonjour Emmanuel. Vous êtes directeur des services immobiliers aux institutionnels pour Crédit Agricole Immobilier. On doit dire qu'avant l'émission, vous ne vous connaissiez pas. Hein, on est d'accord. Hein,
on est d'accord.
Vous faites la connaissance aujourd'hui, justement, de Yannick et d'Emmanuel. Bienvenue à vous trois. En tout cas, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de présenter à tour de rôle vos entreprises respectives. Emmanuel Paris, vous m'autorisez à commencer par vos invités ?
Bien évidemment.
Vous êtes d'accord ? Alors, Yannick Hénouche, présentez-nous justement le réseau Exim et son offre de services.
Alors, Exim est un réseau national, comme vous l'avez stipulé, qui existe depuis une vingtaine d'années,
Oui. Qui
est présent dans tous les territoire de proximité et qui répond à des besoins divers dans le cadre du diagnostic immobilier. Alors tout le monde connaît les diagnostics à la vente et à la location
auxquels
on peut bénéficier quand on fait une vente, mais nous sommes aussi spécialisés sur tout un tas d'autres diagnostics beaucoup plus confidentiels en termes de notoriété publique, notamment du repérage avant travaux dans le cadre de l'amiante, dans la prévention des risques du plomb, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Notre-Dame.
Effectivement.
On parle aussi de la gestion de la qualité d'air intérieur dans les ERP. Mmh. Enfin, on est au cœur de la gestion et du contrôle de l'analyse des bâtiments en termes de risques.
Très bien. On rentrera un petit peu plus dans les détails de vos fonctions et surtout de vos objectifs. Emmanuel Claire, Crédit Agricole Immobilier, évidemment promoteur des territoires urbains, mais pas que.
Pas que, effectivement, nous sommes promoteurs immobiliers, résidentiels, tertiaires, promoteurs des territoires sur la totalité du périmètre national, administrateurs de biens pour les particuliers, pour les institutionnels et exploitants, on va dire, des surfaces tertiaires du groupe Crédit Agricole SA, la holding et ses filiales sur l'Île-de-France.
Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Emmanuel Paris, depuis peu, ThyssenKrupp Elevator devient TKE Elevator France. Pourquoi ce changement d'image ? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer ou de continuer à montrer ?
Nous sommes devenus en juillet dernier une entreprise autonome et indépendante suite au rachat par des fonds d'investissement. Nous souhaitions donner une nouvelle dynamique à TK Elevator, à cette nouvelle marque. Et donc, on le constate au travers des couleurs qui ont été choisies.
Très belle couleur.
Et du slogan Move Beyond, pour bien montrer notre volonté d'être un acteur innovant et toujours très important sur ce secteur de la mobilité.
Alors, pour ce premier rendez-vous, vous avez eu envie d'aborder justement cette grande thématique qui est la réhabilitation du parc immobilier en post-Covid. Mais d'abord, pourquoi avoir eu envie de lancer ce rendez-vous sur Radio Imo ?
C'est parti d'un constat, c'est qu'un des moyens d'apprendre, c'est de s'entourer des bonnes personnes et donc de régulièrement pouvoir s'entourer soit de clients, soit de partenaires. Ça permet toujours de grandir et nous, notre conviction, c'est qu'on grandit tous les jours à côté de nos clients ou à côté de nos partenaires, en tout cas pas tout seul dans nos réflexions. Et donc l'idée de ce thème aussi, c'était on fait le constat que nous sommes beaucoup sollicités sur cette logique de réhabilitation. Et donc, il me paraissait très, très, très important de pouvoir le partager avec des professionnels qui le vivent au quotidien.
Effectivement. Yannick Hénouche, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette grande thématique ?
Je crois que le diagnostic immobilier est au cœur de la réflexion de la rénovation, puisque forcément, avant de faire une rénovation urbaine, il faut faire un diagnostic de contrôle avant travaux. Et puis quand on fait une vente immobilière ou une location immobilière, vous avez le diagnostic. Et la sollicitude de Monsieur Paris sur le fait de partager, d'échanger, en étant tous des acteurs à des étapes un peu différentes de la vie des bâtiments, et il m'a semblé extrêmement intéressante, et de le partager en direct sur Radio Imo était pour moi une évidence.
Bien sûr, Emmanuel Claire, et vous ?
Ah bah écoutez, la réhabilitation et la transformation du parc, j'ai envie de dire, c'est quelque part notre quotidien, c'est notre façon d'assister nos investisseurs, nos propriétaires, quels qu'ils soient.
Oui.
Et en plus, ce sont des sujets qui, aujourd'hui, au regard du contexte, voilà, c'est le thème de l'émission d'ailleurs, post-Covid, voilà, qui prennent des coups d'accélérateur qui sont phénoménaux.
Et de grandes transformations d'ailleurs, dont nous allons parler dans quelques instants. Eh bien écoutez, messieurs, je vous propose justement de commencer cette première partie de cette grande thématique.
L'arrêt du jour. Le parc immobilier en période de Covid-19, un parc à réhabiliter.
Nous allons donc avec vous, messieurs, aborder dans cette première partie l'évolution des différents marchés, à la fois tertiaire et résidentiel, mais aussi celui des infrastructures, en évoquant avec vous le projet du Grand Paris, où il y a beaucoup de choses à dire, je crois. Emmanuel Paris, commençons par le marché du résidentiel et des bureaux, justement. Comment ces deux secteurs ont-ils évolué ces dernières années, à la fois en France et en Europe ?
Alors sur ces dernières années, le constat que nous pouvons faire, c'est qu'il y a une forte urbanisation. C'est-à-dire que en 1950, il y avait 30% des habitants qui habitaient dans les villes, alors que en 2050, on attend l'inverse, c'est-à-dire 70% qui habiteront des mégapoles. Donc aujourd'hui, on voit une forte concentration des habitants qui rejoignent les villes, avec donc une thématique de la vie en hauteur, ce qui paraît aussi assez cohérent en termes d'énergie, de consommation, de réduction des déplacements.
Oui.
Ça, c'est une forte tendance. À côté de ça, forcément, ça nécessite la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures. Et donc, nous, de notre côté, nous travaillons à la fois sur les infrastructures et le résidentiel, ainsi que le bureau. Donc,
on estime, par exemple, que 250 millions de nouveaux logements seront nécessaires en 2030. A priori, dans les 12 pays qui représentent 61% de la population mondiale.
Tout à fait. Je confirme ces chiffres. Nous avons les mêmes, Kenza.
Tout à fait. Merci pour les infos. D'ailleurs, c'est vous qui vous les avez envoyées.
En sachant que notre métier, c'est justement d'accompagner la mobilité dans le cadre de tous ces changements et de tous ces transferts. Donc, nous sommes au cœur de ce sujet de transformation des villes et des bâtiments.
Yannick Enouche, quelles sont vos observations en tant qu'expert diagnostiqueur, sur ce sujet justement de l'urbanisation et de ces transformations importantes ?
Alors, nous, on constate depuis une vingtaine d'années que notre filière existe. En effet, des transformations majeures. L'utilisation des bâtiments ne se fait plus de la même façon. Les plateformes logistiques, les bureaux se transforment. La concentration, comme ça vient d'être évoqué, est un fait avéré.
Oui.
Mais surtout, les éléments des dernières semaines, puisqu'on parle de post-Covid, c'est l'utilisation des bureaux n'est plus du tout la même.
Oui.
C'est-à-dire que clairement, tout le monde a pris conscience que le télétravail était aussi une autre façon de travailler.
Tout à fait.
L'habitation, la proximité, est-ce qu'on a besoin d'être si proche de son lieu de travail ? Est-ce qu'on a besoin d'être en zone urbaine ? On est peut-être maintenant plutôt périurbain. Et puis, clairement, dans la rénovation, parce que c'est vivre autrement et vivre de manière différente son lieu de travail et son lieu de vie, il y a la consommation d'énergie. Clairement, il y a une loi qui vient de passer, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mais
exactement.
Voilà, donc comment l'énergie, Emmanuel le soulignait, comment l'énergie d'un bâtiment permet aussi de vivre un peu différemment ce bâtiment.
Emmanuel Claire, les investisseurs sont évidemment à l'écoute des évolutions du marché tertiaire et résidentiel. Quel est votre constat et vos observations, vous, de votre côté ?
Alors, je ne reviens pas sur le phénomène de métropolisation, je le confirme bien volontiers. Pour autant, nos amis investisseurs, que ce soit d'ailleurs sur le tertiaire ou le résidentiel, attendent quelque chose de plus responsable qu'avant, avec une mixité à la fois dans l'usage et j'ai envie de dire dans les occupants. Ça, c'est une mixité sociale plutôt dans le résidentiel. Une présence de la nature en ville, qui est thème qui nous tient
beaucoup
à cœur. Également une pondération à la fois de l'usage et de la valeur avec une proximité des nœuds de transport. Enfin, en tout cas, surtout des solutions de transport qu'on va qualifier de douces déjà aujourd'hui. Et puis, comme Yannick l'a précisé, on est sur vraiment un milieu qui est en transformation. Aujourd'hui, on ne crée plus à partir de rien, on transforme. Et cette nouvelle stratégie de métropolisation, au-delà du fait que zéro artificialisation des sols, c'est notre credo à tous, c'est bien évidemment dans la valeur également un des critères pour les investisseurs. Et donc c'est la transformation d'actifs. Et je pense qu'on le verra un petit peu plus tard, mais sur la phase de l'économie d'énergie, ou en tout cas de la vertu dans la consommation d'énergie, il y a beaucoup de travail et en tout cas beaucoup de perspectives surtout.
Emmanuel Paris ? Votre avis là-dessus, sur ces grandes transformations, justement, et les attentes de ceux qui habitent dans les villes, maintenant ?
Nous, que ce soit chez nos clients ou que ce soit dans nos bureaux en tant que dirigeants d'une entreprise, on voit cette mutation et ce besoin d'évoluer. Et dans nos équipes, on voit beaucoup de changements ces dernières semaines et c'est passionnant. Il faut que nous accompagnions tous ces changements et c'est à la fois une dimension... Alors là, je prends la casquette du chef d'entreprise. C'est aussi une dimension RH qui est devenue très importante. Dans cette fin de période Covid, on doit accompagner l'ensemble de nos équipes dans cette mutation.
Le retour au bureau, surtout, hein, on est d'accord. Oui, bien sûr. Et justement, dans le milieu...
Pas seulement le retour au bureau, j'habitais Paris, j'ai peut-être envie de travailler différemment parce que j'avais une vie parisienne qui était...
Donc les envies ont changé.
J'étais à X distance de mon bureau et j'entrevois la possibilité d'être beaucoup plus éloigné. Donc tous ces changements génèrent des volontés de mobilité qui sont incroyables.
Vous confirmez, Yannick, qu'il y a une prise de conscience, justement, d'une nouvelle qualité de vie ou d'une nouvelle vie, tout simplement ?
En tout cas, pour rester sur le créneau professionnel, on ne vivra plus ensemble de la même façon dans les entreprises, les séminaires, les réunions de groupe, etc. Sûr. Et on a appris à travailler différemment. Et je crois même que les collaborateurs, en tout cas chez nous, ont besoin aussi de continuer à avoir des temps de travail différents que ceux qui sont en multi-usage, dans des lieux de convivialité, certes, mais dans des lieux de contrainte aussi, où on est obligé d'arriver à telle heure, sortir à telle heure, etc. Et on voit des collaborateurs qui travaillent totalement différemment, qui produisent différemment, et qui, par certains égards, on a souvent dit que le télétravail, c'était très difficile. En effet, si c'est toute la semaine, c'est très difficile. Mais quand vous avez des temps de télétravail, vous travaillez vraiment différemment.
Mais on ne produit pas moins bien, mais on produit différemment.
C'est ce qu'évoquait
Emmanuel.
On est
d'accord, Emmanuel.
On produit différemment.
Oui, absolument. Emmanuel. De toute façon, on crée quelque part une nouvelle porosité entre le monde personnel et le monde professionnel.
Oui.
Je vais me permettre de rebondir sur
bien
cette
sûr,
fameuse porosité.
Prie,
c'est le premier vecteur de transformation demain de l'ensemble des surfaces tertiaires. Une réduction, bien évidemment, je pense, pour une majorité des entreprises. Et bien évidemment, surtout une énorme opportunité puisque transformer ce parc existant, qui pour une bonne partie, de toute façon, ne satisfait pas les objectifs du décret tertiaire 2030, c'est les occasions de synchronisation et de planification qui peuvent être optimales pour regarder enfin quelque chose à 10 ans et en alertant, au-delà des périodes triennales qui sont celles des occupants, leur capacité à transformer leur surface, leur mode de travail et leur façon de les utiliser, et aussi la facture à la fin. Ils en sont conscients. En tout cas, il y a une appétence sur ces trois sujets. Très clairement.
Vous avez l'un et l'autre des choses à rajouter en matière justement d'évolution résidentielle, Yannick. Est-ce que, avant de passer justement au marché des infrastructures,
on pourrait dire des
c'est sûr. On pourrait passer des heures.
On pourrait passer des heures. En tout cas, je pense que le constat qu'on fait tous, c'est un, ça va changer. Deux, ça a changé avec la crise sanitaire. Trois, ça change avec la réglementation. On évoquait la décennie qui vient. Le législateur est tellement prégnant de ces attentes là que nous opérateurs, nous professionnels de l'immobilier, on va être un acteur du changement de l'utilisation des biens immobiliers, c'est une certitude.
Oui. On va voir d'ailleurs demain comment est-ce qu'on va accompagner justement toutes ces transformations. On va peut-être passer du côté du marché des infrastructures. Qu'en est-il d'ailleurs ? On va peut-être évoquer le projet du Grand Paris. Emmanuel, votre métier est aussi d'accompagner la mobilité au sein des villes, évidemment.
Bien évidemment, nous avons comme partenaire la SNCF, par exemple, la RATP, donc des acteurs majeurs de la mobilité dans les villes. Le projet du Grand Paris est un moment assez extraordinaire, puisque finalement, on est en train de relier des personnes qui vont couvrir 8 fois Paris. C'est une métropole de 7 millions d'habitants. Donc on est en train de relier des territoires qui étaient très difficiles à relier. Et derrière ce projet, nous avons beaucoup d'infrastructures et de mise en place donc, du réseau ferroviaire, du réseau de tramway, beaucoup de mobilité. Et donc, bien évidemment, nous, notre métier, c'est d'accompagner ça avec de l'escalier mécanique, de l'ascenseur. Mais on en parle, de mon point de vue, pas beaucoup en ce moment, mais ce sont des projets assez rares, d'une telle intensité, avec des tels investissements. Donc oui, nous sommes aujourd'hui très impactés par ce type de projet. Qui plus est, nous, il y a également les Jeux Olympiques. Donc nous sommes sollicités à la fois sur le projet du Grand Paris, mais aussi les projets relatifs aux Jeux Olympiques. Donc en ce moment, un marché extrêmement dynamique en termes d'infrastructures qui finalement accompagne ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la montée du résidentiel et la croissance du résidentiel. Donc oui, beaucoup de projets sur ce grand sujet du quel Grand Paris. Après, il n'y a pas que le Grand Paris. On a aussi en ce moment des grands mouvements, par exemple à Monaco, des investissements très forts. Donc voilà, juste pour dire que sur le marché de l'infrastructure, on est en train de vivre une période assez hors norme.
En matière technologique et en matière d'innovation, est-ce que ça vous a demandé aussi un travail supplémentaire, de réfléchir à des choses différentes ?
Pas nécessairement sur l'infrastructure en tant que telle. On est sur des produits et des services assez classiques. En revanche, sur les services qui vont en découler, il y a une exigence qui est différente et qui est très importante. Sur ce type de service, on a besoin d'une technologie nouvelle qui est la maintenance prédictive, par exemple. On pourra en parler tout à l'heure.
Tout à fait.
Et puis aussi des ressources différentes.
Emmanuel Clerc, la zone d'Île-de-France est une zone en constante transformation. On assiste à des choses incroyables depuis quelques années. Le Grand Paris en est un grand exemple. C'est ce qu'on disait il y a quelques instants. À quel type de transformation nous assistons réellement, selon vous ?
On a aujourd'hui, je pense, une vraie transformation de la logique urbaine. On parlait tout à l'heure de métropolisation, mais en fait, on est en train de créer des satellites de métropole, de concentrer cette capacité à vivre, à travailler à côté de hubs de communication qui sont encore une fois des solutions les plus douces vis-à-vis l'environnement. Et également d'insister sur une mixité des usages que nous ne connaissions pas avant. On est en train de connecter à la fois, effectivement, les zones à vivre, les campus, qu'ils soient universitaires ou, entre guillemets, tertiaires, comme jamais ils ne l'ont été jusqu'à aujourd'hui, avec effectivement des phénomènes d'infrastructure comme on n'en a jamais connu. Enfin, voilà, c'est d'imaginer ceinturer Paris avec ces nouveaux moyens de transport, c'est juste d'ailleurs redonner de la valeur, donner une valeur complètement différente à la totalité des zones qui sont desservies. Et Emmanuel a utilisé le terme rare. Oui, c'est ce qui se passe là. Je pense que nous ne sommes pas prêts de le revivre. Ça, plus les jeux, effectivement, c'est un mécanisme de réalisation d'infrastructures que nous n'avons jamais connu. Nos investisseurs ne s'y sont pas trompés d'ailleurs, et avec toute, on va dire, la logique et la couverture de risque qui vont bien, ils ont effectivement considéré que c'était là très clairement les zones dans lesquelles il fallait investir demain, enfin si ce n'est aujourd'hui, et construire demain.
Mais justement, qu'est-ce que l'arrivée du Covid a changé dans votre réflexion, ou dans votre façon justement de mettre les choses en place, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont réellement changé dans votre façon de faire ?
Oui, ce contexte sanitaire dont on sait, et Yannick l'a dit, les conséquences seront durables, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que d'un point de vue usage de nos bâtiments et de nos comportements propres. On va revenir sur cette fameuse porosité, cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la façon de l'exécuter chez soi ou justement au bureau, et effectivement revenir à cet énorme vecteur de transformation qu'on n'a pas fini de gérer. Je vais être un peu, pas le Cassandre, mais il ne faut pas rêver, on est trop fourni en tertiaire. Et comme tout cela, nous sommes sur des projets immobiliers qui sont complexes à planifier, longs à planifier, longs à réaliser. Et demain, il va falloir qu'on opère effectivement une repondération du résidentiel sur le tertiaire.
Oui.
Vous dire où, je ne sais pas. Par contre, ce qui est évident, c'est que pour revenir à mes meilleurs clients, qui sont les investisseurs, eux se poseront la question, après les durées d'amortissement des actifs dans lesquels ils ont investi, potentiellement d'en transformer la destination sans faire péricliter la rentabilité, la capacité à servir les fonds. Mais très clairement, les sujets sont en discussion dès aujourd'hui.
Yannick Hénouche, je vous ai senti en total accord.
Mais totalement en phase, et c'est vrai que j'ai bien aimé la phrase sur la mixité là aujourd'hui qu'il va falloir, et l'opérativité du changement de destination des biens, parce que clairement il y a trop d'actifs tertiaires, ça c'est une certitude. On parle de plateformes logistiques, on parle de magasins, les fameux grands supermarchés aujourd'hui qui sont vides. Et la crise sanitaire n'a pas aidé à changer différemment les pratiques d'utilisation et de lieux de vie dans les malls, les centres commerciaux, etc. Mais je pense que ce qu'on attend nous tous, c'est que le législateur, que le gouvernement, c'est pas pour inciter, mais c'est pour vraiment sensibiliser le gouvernement au fait qu'il faut changer à peu près les lois de mutation et faciliter les lois de mutation des actifs immobiliers pour transformer les permis de construire rapidement du tertiaire vers du résidentiel, parce que clairement, il manque des logements. Mmh. Emmanuel disait que les flux migratoires continuent à aller se densifier vers les grandes métropoles. Aujourd'hui, il manque 200, 300, 400 000 logements par an en France. On évoque 500 000 logements régulièrement, mais on ne les construit pas. Mmh. Et donc, à un moment donné, soit on les construit, mais du coup, les sols vont être utilisés alors qu'on veut des villes plus vertes. Et donc, il va falloir urgemment transformer les biens immobiliers existants.
Mmh. Emmanuel Paris, vous êtes d'accord, hein, j'imagine, hein, vous avez...
Je suis d'accord, mais c'est la raison même pour laquelle je souhaitais organiser cette émission. C'était pour avoir aussi, l'avis d'acteurs qui sont en amont, bien en amont, par rapport à des métiers tels que le nôtre.
Mmh. Yannick Enouch, vous vouliez aussi nous parler de la réhabilitation de l'existant, hein, justement, et création des infrastructures pour les JO 2024. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors oui, le Grand Paris, les JO, c'est le point de mire de nous tous, notamment acteurs en Île-de-France. Clairement, c'est un des points de la mutation. C'est juste un catalyseur, comme évoquait Emmanuel. Donc c'est très facile pour moi de dire Emmanuel, parce que les deux s'appellent Emmanuel.
Mais c'est ça. Donc moi, je suis obligée de les regarder pour m'adresser à eux.
Comme disait Emmanuel à ma gauche, c'est clairement un point d'ancrage sur lequel nous, on va s'appuyer pour faire notre métier. Mais clairement, c'est les besoins d'usage qui sont vraiment moteurs pour demain et pour les 30 prochaines années qui viennent.
Très bien. Messieurs, vous avez des choses à rajouter avant de passer à notre seconde partie ? Non ? Eh bien, écoutez, seconde partie de l'émission, c'est parti. Comment se situe le marché de l'immobilier en période de post-Covid ? C'est la thématique de notre deuxième partie de cette émission. Nous allons donc, avec nos invités, aborder différents points en rapport avec le marché de l'immobilier. D'abord, l'accessibilité, l'handicap, la sécurité, la consommation d'énergie, mais aussi l'optimisation des mètres carrés. Emmanuel Paris, je commence par vous. Quels sont d'abord les ralentissements que vous avez observés et constatés par rapport à votre secteur, pour commencer ?
Alors, nous n'avons pas constaté de ralentissement en tant que tel. Nous avons une activité d'installation, nous avons une activité de modernisation, une activité de maintenance. Sur la maintenance, au premier confinement de mars d'il y a un peu plus d'un an, le lendemain des annonces, nous avons continué à travailler et 100% des équipes étaient à l'ouvrage pour tenir et pour pouvoir continuer à maintenir tous les ascenseurs dont on nous confie la maintenance. Mmh. Donc nous n'avons jamais arrêté de travailler sur cette dimension. Nous avons eu un ralentissement ou des décalages, particulièrement quand il était impossible pour nous d'accéder aux chantiers d'installation et de modernisation.
À l'arrêt des chantiers, vous voulez dire, effectivement.
À partir du moment où les chantiers ont repris, toutes nos équipes ont été capables de reprendre. Mais finalement, ça a juste créé un décalage. Mais on peut pas, aujourd'hui, nous ne constatons pas de ralentissement en tant que tel.
Donc on peut même parler de croissance, hein, vous concernant.
Nous sommes sur une dynamique, effectivement, de croissance. Avec un focus, pourquoi nous sommes en croissance ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes focalisés sur la qualité de nos prestations et de nos satisfactions clients. Et donc, oui, effectivement, nous sommes en croissance parce que nos clients nous confient plus de business concrètement.
Ouais, effectivement, et surtout que les changements d'usage de certains bâtiments génèrent aussi certains besoins. On en parlera dans quelques instants, si vous le voulez bien, Emmanuel. Mais avant, Yannick Enouch, en rapport avec votre activité propre, vous, quelles sont justement les constatations ou quelles les difficultés auxquelles vous avez été confrontés durant la pandémie ?
Alors nous, on a eu juste une période très difficile qui était la période mi-mars, mi-mai. Puisque,
comme tout le monde, j'ai envie de vous dire.
Comme tout le monde, puisqu'on ne pouvait plus faire de transactions immobilières, on ne pouvait plus visiter de biens immobiliers, mais on ne pouvait plus aussi accéder sur nos chantiers. Je rappelle quand même que le repérage avant travaux, c'est la sécurité des chantiers. Et que,
c'est votre cœur de métier. Hein,
si on ne donne pas, entre guillemets, l'autorisation de pouvoir, ou du moins que les entrepreneurs du bâtiment soient en sécurité, le chantier ne n'avance pas. Oui. Donc ça a été cette période-là. Par contre, clairement, enfin moi je tiens à le dire ici, le gouvernement a fait un travail formidable en termes de soutien d'entreprises comme les nôtres, où la masse salariale est une des premières charges. Et donc toutes nos entreprises, tout notre réseau a pu tenir ses marges de fin d'année. Et clairement, on est reparti dès le mois de fin mai, vraiment en mode en ordre de marche 2020, et on ne s'est jamais pu arrêter. Mmh. Donc aujourd'hui, le marché est très dynamique.
Très bien. Emmanuel Clerc, quel impact a eu le Covid sur vos prises de décision en matière de sécurité et de procédure, justement ?
Alors, au-delà, enfin, moi, je vais remonter d'un cran, je vais rajouter un champ de contraintes. En fait, on n'a pas eu que le Covid, on a eu aussi une période électorale qui, quelque part, nous a complètement asséché, on va dire, une part du marché. Et la complexité a redémarré derrière. Bon, maintenant, on a quelques éléments de réponse en la matière, hein, notamment, justement, l'innovation dans l'offre, bien évidemment, le logement inclusif, par exemple. Et par contre, le vécu en tant que tel, effectivement, sur les actifs au sens large, ça a juste demandé là énormément d'adaptabilité, la capacité à rassurer, à mettre en place l'ensemble des procédures qui vont bien, avec bien évidemment des bémols, notamment sur la consommation d'énergie, parce que tout le monde pourrait se dire, tiens, il n'y avait personne dans les bureaux, donc tout s'est mieux passé. Mon Dieu que non, je ne vous fais pas la consommation d'énergie au bonhomme, parce que là, nous l'explosons.
Mais pourquoi ?
Parce qu'en fait, pour une bête raison technique, c'est qu'on nous a demandé d'être en tout air neuf.
D'accord.
Et que finalement, on a maintenu les surfaces pour 15 à 20% des occupants.
Comme si elles avaient été utilisées.
Voilà, des activités essentielles non opérables à distance. Et donc, en fait, on a maintenu quasiment 100%. Chauffage, clim, en tout air neuf. Donc, loin d'être optimisé. C'est un des effets négatifs. Mais honnêtement, par rapport à la préservation justement de l'utilisateur et encore une fois, là aussi, à la fois le travail du gouvernement en termes de prévention et notre façon de le décliner, je pense qu'aujourd'hui, personne nous en tient rigueur.
Vous, c'est le contraire, Emmanuel Paris. Du côté des ascenseurs, il y a eu une consommation moindre, je suppose, des ascenseurs. Une récupération d'énergie plutôt...
Oui, alors ça, c'est par le biais du développement des produits où effectivement, nous sommes sur des produits qui consomment de moins en moins. Par rapport à cette période assez particulière, il y a eu moins de fonctionnement. Pour autant, on se devait de continuer à maintenir notre activité à 100%. Donc, on n'a pas dérogé. On a aussi travaillé sur... on a connu au démarrage de cette période un petit stress d'utilisation des ascenseurs avec des vidéos qui... Donc, il a fallu aussi qu'on rassure nos usagers et qu'on mette en place des process, qu'on a communiqué à l'intégralité de nos clients, pour que les usagers soient rassurés et que l'ascenseur ne soit pas considéré comme un vecteur ou un catalyseur de ce virus.
Vous avez senti ces craintes ?
Très fortes. Et donc, nous avons mis en place, avec l'appui de la Fédération des ascenseurs, nous avons tous travaillé pour mettre en place des process identiques pour faire en sorte que les usagers, finalement, n'aient pas de crainte à prendre d'une manière concrète l'ascenseur, avec des endroits où, effectivement, il y avait des plateaux entiers qui étaient vides, donc des utilisations très, très faibles. Et en revanche, à contrario, certains endroits résidentiels où il y avait une utilisation plus forte que d'habitude.
De votre côté, Yannick Enouche, vous nous parliez tout à l'heure de l'impact de la loi justement énergie-climat qui vient d'être votée sur la rénovation des logements. Quel impact justement a cette loi ?
Majeur.
Je pense que je peux pas être
plus clair. Le législateur veut qu'on rénove. Nous-mêmes, on l'a constaté là depuis le début de l'émission, que la rénovation est en marche et qu'on va changer à la fois les usages, l'utilisation, etc. Et le logement, pour parler que du logement, consomme 20% de l'énergie du pays. Le bâtiment en général, consomme 20% de l'énergie du pays. Et le gouvernement, clairement, dans les différentes COP qui se suivent, a décidé que la France devienne un acteur majeur de la baisse de la consommation d'énergie. Et donc, clairement, l'utilisation d'un logement est au cœur de cette problématique-là. Comment on va baisser la consommation d'énergie chez soi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour son pouvoir d'achat.
C'est le nerf de la guerre en ce moment.
On va gagner des sous chacun dans l'utilisation des biens, que ce soit des professionnels de l'immobilier, que ce soit des particuliers. Comment on va vivre mieux chez soi en consommant moins, en utilisant des technologies diverses. Et donc, ça, c'est le cœur de la rénovation des logements, puisque l'énergie est quasiment un des acteurs principaux et un pôle principal de l'économie du logement.
D'ailleurs,
de
la rénovation énergétique est devenue une symbolique très forte depuis déjà quelques années.
La réforme du DPE qui va arriver au mois de juillet ne parle que de ça. Le gouvernement a mis en place MyPrimeRénov pour que tout le monde puisse bénéficier d'économies d'énergie. Et clairement, dans 10 ans, le parc aura totalement changé parce qu'il y a des contraintes législatives très fortes pour ne plus pouvoir mettre des passoires énergétiques sur le marché. Il y a 1,8 million de logements qui vont être rénovés dans les 10 prochaines années, obligatoirement. énorme.
En matière d'accessibilité également et en handicap, en matière d'handicap, est-ce que vous avez des choses à dire ou est-ce que je passe la parole peut-être à Emmanuel? Emmanuel,
je vais revenir sur cet aspect énergétique parce que Emmanuel le disait tout à l'heure, il a fallu convaincre. Vous pouvez prendre des ascenseurs, hein, voilà, à partir de mars 2020. Mmh. Et en fait, j'aime beaucoup les propos d'Yannick, le gouvernement met en place un certain nombre de dispositifs. Donc on met en place la carotte et le bâton. Mais en fait, tout l'enjeu, justement, c'est dans le développement de la conviction. Mmh. Il va falloir qu'on arrive à convaincre des gens de vivre un peu différemment dans leur logement, d'être moins consommateurs ou plus vertueux. Et c'est dans le développement de la conviction que, et pas simplement dans vous allez payer plus cher, je vous mets une amende ou je vous aide, qu'on y arrivera. Et ça, vous verrez qu'on verra également, je pense, sur le tertiaire. Mmh. Sur honnêtement, les conditions d'accès et de vie au sein des parcs investisseurs, je pense que tous les investisseurs ont à cœur, bien évidemment, d'être soit la dernière norme, soit dans le raisonnable par rapport justement à l'objectif d'une norme dans le temps. Tout ce qui est effectivement ADAP, ça c'est quelque chose qui a été fait sur la quasi-totalité des parcs institutionnels. Là aussi sur la sécurité, je rebondis sur le côté élévateur. C'est encore une fois, c'est mettre en place les bons dispositifs sans être anxiogène. C'est convaincre de l'aspect totalement safe de l'usage de l'équipement, quel qu'il soit. Et pareil sur, encore une fois, les aspects sanitaires. En fait, tout ce que nous avons pu mettre en place pendant cette période, quelque part, va perdurer de façon certainement pérenne. Enfin, pérenne. Mmh. Bah, si déjà, on se lave les mains tout le temps et qu'on ne touche pas à tout,
pas
on limite la gastro et la grippe. Et moi, je trouve ça énorme.
Oui, donc ça veut dire que vous avez poussé vos procédures d'exploitation plutôt de façon...
Beaucoup plus en profondeur,
c'est ce que j'allais vous demander.
Et, et encore une fois, d'ailleurs, je tiens à les remercier et à les en féliciter parce que je pense qu'on a des partenaires sur ces sujets qui n'ont jamais quitté le bateau. Hein, depuis le 16 mars 2020, ils sont toujours restés là. Ils nous ont toujours aidés dans cette tâche, quelle qu'il soit. Et il n'y a pas que la propreté, le multitechnique. Je ne citerai pas les marques parce que je préfère être général. Je leur rends hommage parce que ce sont des gens qui, à défaut, ont pris quand même un peu de risque, très clairement au départ, comme nous tous, mais qui sont restés, petit doigt sur la couture et présents et efficaces.
Mmh. Avant de passer à la troisième partie de notre émission, je voudrais quand même qu'on parle justement de l'optimisation des mètres carrés. Je crois que vous avez aussi des choses à dire là-dessus. Emmanuel, je vous écoute.
Alors, c'est certainement effectivement le premier impact aujourd'hui de ce contexte sanitaire. Ce qui est amusant, c'est de constater qu'en fait, cette optimisation, on la vivait déjà avant. Je pense que la transformation des modes de travail, c'est quelque chose qui errait qui planait autour de l'ensemble des organisations.
Et qui s'est encore plus confirmé, évidemment.
Je reprends le terme de catalyseur. Je ne sais plus si vous l'avez utilisé tous les deux. Voilà, on a un super catalyseur, un énorme accélérateur où là, finalement, même les plus réfractaires à des solutions de flexibilité dans les modes de travail se disent « oui, honnêtement, je ne peux pas freiner. Au contraire, il faut que j'en fasse la promotion. » Et d'où cette transformation à la fois, bien évidemment, des parcs, mais pas simplement des parcs, parce qu'il faut transformer les bonhommes qui bossent dedans, un peu quand même. Et au-delà de ça, effectivement, ce rééquilibrage dans l'offre qu'on devrait pouvoir conduire à terme, on va tous réduire nos surfaces de travail. Je pense que c'est une réalité qu'on a entendue et comprise. Maintenant, c'est juste une question de temps et donc de vitesse d'exécution. Donc derrière, il y a un certain nombre de ces surfaces qu'il va falloir transformer en autre chose. Tout simplement.
Yannick Enouche, vous êtes totalement d'accord. Hein. C'était votre discours d'ailleurs tout à l'heure.
J'étais en train d'imaginer aussi toute la digitalisation, qui n'est pas l'objet de l'émission, mais qui
faudrait
qui
qu'on fasse une émission d'ailleurs là-dessus, effectivement. Ouais. Emmanuel,
Je voulais rebondir sur effectivement cette réduction des mètres carrés. Ma conviction forte, c'est qu'on s'est aperçu que finalement, ce lieu de travail n'était plus qu'un lieu de travail. Ce qui nous a beaucoup manqué finalement, ce qui a beaucoup manqué aux équipes, c'était ce lieu de convivialité, ce lieu de lien social. Et finalement, pour créer du lien social, d'avoir chacun son bureau, je caricature bien évidemment, on ne crée pas de lien social. Et donc, d'une manière beaucoup plus soft, effectivement, moi, il me paraît évident qu'on va réduire notre surface. Et ça, c'est un mouvement général qu'on peut constater encore une fois parce qu'on a besoin de se voir, on a besoin maintenant pour travailler. D'autant on peut très bien travailler à la maison devant son ordinateur, mais quand on est au bureau, on a besoin d'être à la machine à café. Et pour ça, il faut que toutes les cloisons soient cassées, en tout cas qu'il y ait beaucoup plus. Et ça, il y a une acceptation qu'il n'y avait pas. il y a un an. Et nous, on l'a constaté en entreprise, puisque nous avons changé de siège social, de lieu de siège social. Et donc, oui, effectivement, on voit qu'on a créé beaucoup plus de lieux de partage et de convivialité. Et de mon point de vue, c'est le sens du bureau dans les années qui viennent, c'est ça.
Eh bien, ce sera le mot de la fin pour cette seconde partie. Je vous propose de passer à la troisième et dernière partie de l'émission. Quelles sont les modifications en cours sur le parc immobilier? Comment surtout créer de la valeur et surtout l'impact du smart building? C'est ce qu'on va aborder avec mes invités du jour. Alors, Emmanuel Paris, on passe clairement d'un monde de propriétaire à un monde d'usage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quel est votre avis là-dessus?
Nous, notre conviction et ce que l'on voit au quotidien, c'est qu'on se préoccupe de beaucoup plus de tous les jours de l'usager, ce qu'il y a quelques années, on ne faisait pas forcément. Et aujourd'hui, l'objectif principal, c'est effectivement d'assurer que l'usager ait la meilleure expérience possible. Et cette crise de Covid, où j'évoquais tout à l'heure la difficulté en termes de sécurité, de rassurer, nous avons mis en place beaucoup d'innovations. Je fais référence, par exemple, quand vous, sur votre téléphone, vous pouvez recevoir un code barre. Ça vous permet de rentrer dans l'immeuble, ça appelle l'ascenseur et puis ça vous amène en fait à l'étage que vous souhaitez. Donc ça, c'était l'objectif du sans contact, donc de pouvoir se mouvoir dans un immeuble. Et voilà, il y a eu une énorme demande sur des produits comme ça. Après, concrètement, assez peu de passages à l'acte, oui, mais une énorme demande sur ce besoin de mobilité et donc poussé par ces demandes d'usagers, finalement.
Qu'est-ce que le smart building permet de créer?
Plusieurs choses, dont un, cette expérience client, et puis deux, une performance meilleure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients et partenaires nous demandent finalement de faire en sorte que le parc dont ils nous confient la maintenance soit disponible à 100%.
On va parler d'ascenseur, mais surtout comment on va prendre l'ascenseur dans son ensemble, c'est-à-dire comment on va suivre les modifications et aussi les pannes, c'est ce qu'on appelle
la maintenance prédictive.
Merci, c'est le mot que je n'arrivais pas à trouver. Effectivement, vous voyez, ça m'arrive, on est tous des êtres humains. Emmanuel Clerc, les modifications en cours sur le parc immobilier répondent clairement à quel type d'enjeu? Je crois qu'il y en a deux.
Oui, alors je vais encore une fois rebondir sur les propos d'Emmanuel et puis on va revenir un peu plus loin dans l'émission. On se disait sur l'infrastructure qu'on était dans une période relativement rare.
Oui.
Là, Emmanuel parlait d'expérience utilisateur et en fait, c'est potentiel, on va dire, ajout de composantes technologiques type Smart Building. Moi, je considère que ça nous emmène sur une nouvelle opportunité qui est d'une rareté absolument extrême, c'est de transformer l'usager en acteur, enfin. Enfin, de lui faire comprendre que l'usage, c'est lui qui le détermine et que son comportement est clé dans la façon de bien utiliser, d'optimiser l'actif qui, quelque part, est son environnement de travail. Et pas que, voilà, tout simplement. Et en fait, alors on a un double enjeu, bien évidemment, parce qu'on a des solutions extrêmement profondes comme celle qu'Emmanuel vient de citer, la capacité à rentrer sans contact et aller jusqu'à l'endroit où on souhaite aller totalement guidé, ce qui est une vraie perf. Enfin, je plaisante pas, de toute façon, les solutions justement d'appel et de programmation de l'ascenseur, c'est des vrais sujets d'optimisation qu'on connaît, qu'on met en place d'ailleurs sur une bonne partie de nos actifs aujourd'hui. Mais on va aller au-delà. Il y a un tel potentiel, justement basé sur des choses tellement simples. Mais vraiment, quand je dis simple, c'est vraiment d'ailleurs le fondement du smart building, c'est d'être capable d'assembler des composantes technologiques relativement simples et pas du tout gadget, vraiment pas gadget, comme justement les mesures de taux de présence dans certaines typologies d'équipements qui permettent de totalement corriger justement les attendus et les besoins des utilisateurs. Et puis également, mon cheval de bataille de demain qui va rejoindre la réglementation environnementale, la captation de température.
La qualité de l'air aussi,
alors j'ai tendance à pas beaucoup en parler parce que mes rapports trimestriels sont
excellents.
J'aurais pas dû aborder le sujet, d'accord.
Non, mais c'est bien parce qu'effectivement, c'est mesuré et qu'on est capable de dire, non seulement il y a le débit, mais en plus, tout ce qu'on mesure au quotidien, c'est parfait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est, on va dire, dans des locaux aussi propres que s'ils étaient aérés en permanence. Peut-être plus d'ailleurs parce qu'on filtre. Ouais. Et en milieu urbain, à mon sens, vaut mieux filtrer que d'ouvrir, voilà, n'en déplaise au protocole sanitaire du ministère du Travail. Mais ouais, le phénomène des températures demain, très clairement, pour faire passer des messages très clés, oui. Si l'utilisateur n'est pas content de venir dans un bureau dans lequel il y a 28 degrés en 2030, alors, à la fin, il le sera parce que chez lui, il fera 40. C'est aussi bête que ça. Mais demain, l'enjeu, voilà, c'est de faire un utilisateur qui comprend qu'il est l'acteur de sa surface et que 20 degrés en hiver, c'est pas froid, et 26, 27 ou même 28 en été, finalement, c'est pas si chaud que ça. Et que finalement, lui contribue à cette responsabilité environnementale. Et ce sont finalement des solutions, j'insiste, hein, vraiment très simples à mettre en place.
Oui.
Et quasi nécessaire. Enfin, si vous, voilà, je le dis aux auditeurs, si vous n'en avez pas, il y a une kyrielle de boîtes sur le marché qui vont vous proposer des trucs extrêmement performants, peu onéreux et qui sont des vrais vecteurs de transformation demain.
Yannick Hénoux, je vous ai vu très concentré sur les propos d'Emmanuel.
Des deux Emmanuels, parce que c'est hyper intéressant que chacun, avec son prisme et son offre de service, intègre la technologie. L'ascenseur et le fait de pouvoir rentrer dans un immeuble et monter au dernier étage sans toucher un bouton, c'est déjà énorme. Idem sur la gestion de la température. Nous, notre métier, c'est la prévention des risques. Et je ne peux pas passer à côté de la qualité d'air intérieur. C'est pour ça que je me suis
rebondir. Mais oui, c'est pour ça que moi aussi, j'ai...
Parce que c'est un enjeu majeur. D'abord parce qu'il y a une loi, un décret, 2023, tous les ERP, établissements recevant du public, devront quand même donner l'information de qu'est-ce qu'on respire, alors du CO2, des COV, des composés organiques volatiles, etc., des pathogènes, etc. Donc ça, c'est quand même un sujet. Je pense que c'est fondamental de savoir ce qu'on respire dans un lieu pour sa santé. On l'a vu avec la crise sanitaire qu'on a connue. Et moi, je suis prêt à parier que dans les 10 prochaines années, on ira dans un lieu parce qu'on aura un ranking comme vous avez les meilleurs restaurants, etc., avec des étoiles. Et ben, vous aurez la meilleure qualité d'air dans un lieu public, une agence bancaire, un magasin, etc. Donc ça, c'est très, très important.
Pour vous, c'est une affaire de santé sanitaire. Hein.
C'est une affaire aussi de conscience collective. Emmanuel parlait de la conscience collective. Une conscience collective de dire, moi, je vais dans un endroit parce que j'y respire bien. Je respire bien. Et après, très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, sur l'aspect responsabilité par rapport à la température ou par rapport au lieu de vie. Clairement, si on responsabilise les gens qui vont pouvoir piloter leur température dans leur lieu de vie, chez soi ou à son bureau, ça va pouvoir permettre des économies d'énergie majeures. Puisqu'aujourd'hui, les technologies qui ont été utilisées par les deux prédécesseurs intervenants, ce sont les smartphones qui sont le cœur même du contrôle de notre environnement. Et contrôler sa température, c'est faire des économies. Forcément, quand on part, on baisse la température. Analyser sa qualité de l'air, on l'a sur son téléphone aussi. Et ça permet aussi d'avancer un peu et de prévenir les risques.
Emmanuel, Paris.
En complément, si on parle de haute technologie, aujourd'hui, ça c'est pour donner un exemple, hein, c'est pas forcément pour parler forcément toujours d'ascenseur. On a aujourd'hui des ascenseurs qui sont capables à coller à de l'intelligence artificielle, à donner de l'information en direct, mais aussi d'une manière prédictive. Et donc ça va contribuer au fur et à mesure que ces datas vont aller dans le cloud, vont être analysées par l'intelligence artificielle, ça va nous permettre également de faire des économies en termes d'énergie et puis d'optimiser les flux aussi dans un bâtiment. Et ça c'est clé. Et donc on voit bien que ce smart building dans lequel tous les acteurs s'intègrent, profite finalement aux propriétaires, aux usagers et puis aux gestionnaires avec des réductions de coûts, des gains d'économie et puis de la facilitation d'usage.
Donc clairement, il faut que demain les propriétaires, les investisseurs, les locataires aient tous les mêmes gestes ou des gestes en tout cas qui leur permettent d'être cohérents par rapport à la création de valeur de demain.
Eh bien, c'est ça, c'est le sujet sur lequel je voulais rebondir, c'est très clairement la valeur. Aujourd'hui, effectivement, pour un investisseur, l'actif de demain, c'est celui qui va s'accompagner de cette intelligence, cette capacité à maintenir de façon prédictive. Au-delà même du coût, c'est pour l'investisseur, c'est juste la bonne gestion de son patrimoine, la bonne conservation de son patrimoine. Pour l'utilisateur, là également, les coûts, mais au-delà des coûts, l'aspect responsabilité environnementale. Donc oui, toute la valeur va tourner autour de ça demain. Sachant que effectivement aujourd'hui, les techniciens, les bureaux d'études peuvent et ils le font super bien. Ils vont vous vendre des consommations qu'on va qualifier de prédictives ou prévues, planifiées.
Oui.
La vraie vie, c'est justement de gérer l'utilisateur qui lui considère que c'est son confort qui prime. Or, cette valeur ne sera créée que si on y associe justement l'utilisateur dans l'usage. Mmh. Une fois qu'on a, voilà, entre le propriétaire, l'exploitant et l'utilisateur, le bon triptyque et le bon alignement, oui, on arrivera à créer cette valeur.
Mmh. Alors, on arrive aux dernières minutes de cette émission. Et Emmanuel Paris, je vais peut-être vous laisser conclure et nous dire justement ce qu'il reste encore à dire, parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. On pourrait faire une émission de 2 heures.
Hein, avant de conclure, je voulais juste évoquer ce qu'a dit Emmanuel précédemment. Mmh. On parle de... Emmanuel a évoqué, et je trouve ça très intéressant, la notion de formation, ou en tout cas d'information des usagers. Et c'est clé, en fait, on est confronté, bah, j'ai donné un exemple concret, dans des tours dont nous assurons la maintenance, on s'est aperçu que donc, dans les tours, finalement, on gère des flux extrêmement complexes. À l'heure du café, à l'heure du déjeuner. Nous sommes vraiment sur des flux d'usagers qui sont très, très compliqués à gérer. Mmh. Et donc, face à une technologie très poussée, il faut aussi, dans ces moments-là, qu'on sache former et expliquer, en fait, aux usagers de la tour comment on fonctionne. Donc, je crois vraiment à ce que disait Emmanuel, cette notion de, à la fois, d'un côté, on peut avoir la haute technologie, mais de l'autre, les usagers doivent prendre leur destin entre leurs mains sur...
Responsabilité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Une sorte d'accompagnement, en tout cas, les uns avec les autres.
Hein, convaincre et mobiliser.
Mmh. Yannick, un dernier mot peut-être là-dessus ?
On s'aperçoit que l'utilisation des bâtiments va être corrélée à l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, elles sont plus tout à fait nouvelles, ces technologies, mais il y a de plus en plus de solutions qui vont nous permettre d'être à la fois responsables de l'utilisation, ce qui vient de dire. C'est vrai qu'on va tous descendre à 12h30 pour déjeuner, c'est une hérésie. Donc peut-être analyser les flux, analyser les tendances, peut-être, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, récompenser ceux qui utilisent différemment les usages d'un bâtiment, type en température, type en chauffage, en clim ou en utilisation d'ascenseurs. Oui. Et je pense que c'est vrai qu'on va être aidé au quotidien, comme on est aidé aujourd'hui sur la route avec des GPS, peut-être d'avoir un GPS dans un immeuble. C'est peut-être pas le bon terme, GPS, mais enfin, en tout cas, une application qui nous aide à voir qu'est-ce qu'on respire, qu'est-ce qu'on consomme comme énergie, comment on descend à la pause café, où on va garer sa voiture, comment on recharge sa voiture. Et ça je pense que c'est vraiment le digital, l'intelligence artificielle qu'évoquait Emmanuel Paris, c'est demain le corollaire des nouveaux bâtiments et de la rénovation et nos enjeux de demain, je pense.
Bon, en tout cas, merci pour ce mot de la fin, Yannick. Merci à vous trois d'avoir participé à cette première émission d'Arrêt à tous les étages. Emmanuel Clerc, merci, directeur des services immobiliers aux institutionnels du Crédit Agricole Immobilier. Merci encore pour votre participation. Yannick Hénouche, merci pour votre sympathie et d'avoir accepté justement d'être des nôtres. Président, directeur général d'Exim, donc Diagnostic Immobilier. Et Emmanuel Paris, merci beaucoup pour cette première émission. Vous êtes prêt à en faire une deuxième, là ? Ça y est ?
Je suis prêt.
On y va ?
Merci, est-ce qu'on aura les mêmes invités ?
C'est vrai qu'ils étaient bien, quand même, les invités aujourd'hui, effectivement. Président, justement, de TK Elevator France. Merci beaucoup, Emmanuel Paris. On se retrouve bientôt pour un deuxième numéro d'Arrêt à tous les étages. Merci de nous avoir suivis sur Radio Immo.
Arrêt à tous les étages. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.